Alors, Yosh, vous nous arrivez avec un peu de retard, c'est l'horaire cubain, l'horaire de la Havane, ou plus exactement la douceur de la cuisine française?
Es porque el couscous árabe de el Salambó es demasiado bueno.
Oui, en fait, c'est parce que le couscous du Salambó était vraiment trop délicieux.
C'est bien ce que je disais, un plat typiquement français.
Desde luego, Francia es uno de los países con mayor cantidad de árabes de todo el mundo.
Oui, en fait, bah oui, si, quelque part, c'est un peu peut-être considéré comme un plat français, parce que la France, c'est apparemment le pays au monde où il y a le plus d'arabes.
Es un país tan grande que incluso hay franceses.
Oui, donc c'est un pays tellement grand que il y a aussi des Français.
Bien. Planète allouée, le roman le plus ancien de Yosh, qui en fait est un roman qui a quand même maintenant une vingtaine d'années, et qui a été publié tardivement en France, c'est-à-dire en 2011, si je me rappelle bien.
Oui.
Ben ça. Et on va y revenir. Je vais quand même vous lire ce que je fais jamais dans un café littéraire, ce sera la première fois, la très courte en guise de préface qui a été faite, j'imagine, par l'éditeur ou peut-être par la traductrice.
C'est par la traductrice.
J'avais des soupçons. Généralement, une préface est un commentaire sur la vie d'un écrivain et sur une œuvre que l'on introduit, écrite par un autre auteur. Elle peut éclairer certains points obscurs, le contexte du roman, du recueil de nouvelles, expliquant ce que celui-ci représente dans l'histoire de la littérature ou par rapport à son époque, entre autres. Qu'un auteur écrive sa propre préface pour une œuvre dont il n'est pas sûr qu'elle soit publiée un jour, peut ressembler soit à un acte d'arrogance, de suffisance et d'infinie pédanterie, soit à un aveu d'insécurité à propos de son propre livre. Je suis de ceux qui croient qu'un livre se défend tout seul ou bien meurt dans l'obscurité et l'oubli. Ce que l'auteur n'a pas dit dans ses pages ne doit pas être raconté a posteriori dans des interviews ou des commentaires de ce même auteur, du moins la plupart du temps. Mais ce livre est spécial. La science-fiction, comme d'autres littératures de genre, bien que par chance le roman policier paraisse avoir conquis pleinement le droit d'être qualifié de grande littérature, a été souvent regardée de haut par les critiques et les partisans de ce qu'on a l'habitude d'appeler la littérature blanche. Ce n'est pas une littérature sérieuse, disent-ils. Pourtant, de grands auteurs et de grandes œuvres de la littérature mondiale ont trouvé dans la science-fiction leur moyen d'expression approprié. Pour n'ennuyer personne et ne pas faire de cette préface un essai ou une énumération, je me borderai à citer Orange Mécanique d'Anthony Burgess, Le meilleur des mondes de Huxley et 1984 de George Orwell. Toutes ces œuvres sont des contre-utopies tentant d'alerter sur les dangers qui guettent l'homme d'aujourd'hui par la description d'un futur plus ou moins sinistre. Le roman que vous vous préparez à lire poursuit le même objectif, toute proportion gardée. Il va plus loin que tout ce que j'ai déjà écrit en suivant les canons actuels du genre, dont je suis un passionné, du versant le plus pur et le plus éloigné de la réalité, comme beaucoup le savent. Le but de ces 7 textes et de leurs commentaires introductifs est de faire une allusion au présent de Cuba de façon métaphorique, c'est-à-dire que toute ressemblance entre le Cuba des années 1990 et cette terre du 21e siècle est purement intentionnelle. Parfois, mes récits réalistes ont été qualifiés d'histoires sans capacité d'abstraction. Je reconnais que les critiques n'ont pas été totalement injustes en émettant de telles affirmations. L'unique moyen que j'ai trouvé pour parler du présent sans tomber dans le journalisme underground ou l'anecdote a été le biais de la science-fiction. J'espère que je ne m'en suis pas trop mal tiré. J'espère également que vous me pardonnerez cette préface qui aura au moins le mérite d'être brève. Et c'est vrai. Et donc, Sylvie nous précise que c'est elle qui a demandé cette petite précision à Yosh. Et voilà pourquoi l'édition française comporte cette brève introduction. On va entrer dans le vif du sujet. Approchez, approchez! Mais seulement si vous êtes xénoïdes, nous n'acceptons pas les humains. Une opportunité commerciale unique, une offre qui ne se refuse pas, une planète à louer, une planète entière avec ses mers et ses montagnes, ses glaciers et déserts, ses plaines et ses forêts, une planète avec ses climats, sa faune, sa flore, ses minéraux et sa lune, et bien mieux, avec toute sa population intelligente. Une véritable aubaine, une planète à louer avec son histoire, ses monuments et ses merveilles, avec ses œuvres d'art et sa fierté, ses rêves et sa foi dans le futur. Une planète allouée aux meilleurs enchérisseurs pour un temps indéfini, sans condition, sans restriction, sans scrupule. Une planète à louer, entière ou par morceaux. Investisseur d'Aldébaran ou Drigel, touriste de Sétiude, Proxima du Centaure, gros capitaliste ou petit actionnaire, ne laissez pas passer cette occasion. Une planète à louer qui s'est perdue sur la voie du développement, qui se trouve au point où toutes les médailles ont été décernées, où il ne reste plus que le lot de consolation de la survie. Une planète à louer qui a appris le jeu de l'économie avec certaines règles, mais qui, lorsqu'elle les a mondialisées, s'est rendue compte que celle-ci avait changé. Une planète à louer par plaisir ou par haine, comme une vieille prostituée s'offrant au premier venu pour quelques heures contre une poignée de crédit. Une planète à louer dont les habitants ont cessé de croire au futur, quel qu'il soit, et qui s'accrochent à l'orgueil de leur passé pour affronter un quotidien différent et plein de xénoïdes. Une planète à louer pour vous, fils innocents d'une espèce et d'une culture victorieuse, pour vous, étrangers venus d'un autre système solaire, pour vous, privilégiés nés sous la lumière d'une autre étoile. Une planète à louer, très bon marché. Ne laissez pas passer l'occasion. Signez dès à présent votre bail, mais attention, lisez bien les mentions en petits caractères qui figurent au pied du contrat. Vous qui croyez avoir loué une planète, vous réaliserez peut-être plus tard que vous l'avez achetée pour l'éternité et qu'au lieu d'avoir dépensé pour la payer des crédits durement gagnés sous les rayons d'un autre soleil, vous y aurez laissé votre âme. Cela ne vous gêne pas ? Alors approchez, nous vous attendons et prévenez vos amis tout de suite, nous avons une planète à louer. Ça démarre très fort. Ça démarre très fort. Et est-ce que je me trompe, puisque vous avez déjà alerté Yosh dans la petite préface, est-ce que je me trompe en disant que cette planète à louer, avec ces extraterrestres à qui on propose de l'acheter, et c'est toutes les histoires, tous les extraits de ce roman qui vont nous donner différentes facettes de cette planète, est-ce qu'en fait, ces extraterrestres, pour vous Cubains, ce ne sont pas ces Américains et ces pays riches, et est-ce que cette planète à louer, ce n'est pas une métaphore de votre île que vous aimez, Yosh, et que vous craignez que certains achètent ? Et pas de la meilleure façon, entre autres un grand voisin.
Es obvio que la referencia a Cuba, y no solo los Estados Unidos, sino todo el primer mundo, está muy presente.
Oui, c'est évident que la référence aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis, mais à tous les pays du premier monde, donc les pays capitalistes, donc c'est évident que la comparaison est volontaire.
Los años 90 fueron una década muy difícil para Cuba. Hasta 1990 éramos parte del campo socialista y recibíamos transfusiones de nieve desde la Unión Soviética que mantenía nuestra economía a flote.
Et les années 90 ont été des années particulières parce que jusque en
1990.
Donc jusqu'en 1990, en fait, nous recevions des subventions de l'Union soviétique. On faisait partie du bloc soviétique et on recevait de l'argent à profusion qui maintenait notre économie à flot.
De pronto, la Unión soviética, el gran hermano que era eterno, se cayó en pedazos. Dejó de llegar la ayuda. El mundo se nos destruyó.
Et d'un coup, le grand frère éternel qui était l'Union soviétique est tombé en morceaux et nous a abandonnés et l'argent a cessé d'arriver et quelque part ça nous a détruits.
Se hablaba de la teoría del dominó, caída una ficha, estaban cayendo todas. Quizás Cuba era una ficha que estaba demasiado lejos porque todavía no ha caído.
Et donc on parle de la théorie des dominos où on pousse un premier domino puis ensuite les dominos se poussent eux-mêmes. Eh bien, pour Cuba ça peut s'appliquer, sauf que apparemment le domino de Cuba est très loin parce qu'on n'est pas encore complètement tombé.
Pero nos ocurrió algo peor que caer, nos quedamos solos.
Mais en même temps il y a quelque chose de pire qui est arrivé, de pire que tomber, c'est qu'en fait on est resté tout seul.
Nuestros gobernantes tuvieron que apelar al turismo. No querían turismo capitalista, pero era el único que podía llegar.
Et nos dirigeants ont dû faire appel au tourisme. Alors bien évidemment, ça leur a coûté parce qu'ils ne voulaient pas d'un tourisme capitaliste, mais ils n'avaient absolument pas d'autre solution pour faire arriver de l'argent.
Nuestra ideología decía que eran el enemigo. Nuestra economía decía que solo ellos podían salvarnos.
Et en fait, notre idéologie disait que les capitalistes étaient l'ennemi, mais notre économie disait qu'ils étaient les seuls à pouvoir nous sauver.
Después de 31 años sin ver turismo capitalista en Cuba, esos primeros turistas para nosotros eran extraterrestres.
Et donc, lorsque le tourisme a commencé 30 années en arrière, ces premiers touristes étrangers qui sont arrivés, pour les Cubains, c'était comme des extraterrestres.
tenían dinero, podían comprar todo lo que querían, la policía los protegía.
Ils avaient de l'argent, ils pouvaient acheter tout ce qu'ils voulaient, la police les protégeait.
Las mujeres cubanas querían un novio extranjero porque tenía el dinero que los cubanos no tenían.
Les jeunes filles cubaines voulaient absolument se trouver un fiancé étranger parce que de cette manière, elles avaient de l'argent et elles pouvaient s'acheter des choses qu'elles n'auraient pas pu acheter avec un fiancé cubain.
Los científicos y los deportistas cubanos querían viajar al extranjero para no volver nunca más a Cuba.
Les scientifiques et les sportifs avaient le désir, avaient le souhait de partir à l'étranger pour surtout ne pas revenir.
La sensación general en Cuba era que habíamos perdido una guerra que nunca había ocurrido.
Et la sensation générale à Cuba, c'est qu'on avait perdu une guerre qu'on n'avait jamais faite.
Yo escribí el primer relato de Se alquila un planeta en el año 95.
Et en fait, le premier récit, la première partie donc, de Planète allouée a été écrit en 1995.
No fue una historia meditada ni largamente elaborada. Fue una historia que salió desde el hígado, desde la rabia.
En fait, ça n'a pas été une histoire qui a été mûrement réfléchie, qui a été... non, c'est quelque chose qui a été jeté sur le papier avec émotion et avec rage.
Y de pronto descubrí que muchos cubanos cuando leían mi historia lloraban y me decían: yo quiero leer más de esto.
Et en fait, j'ai découvert que de nombreux cubains, quand ils ont lu cette histoire, bah, ça les faisait pleurer et ils m'ont dit: il faut absolument que tu en écrives davantage de la même veine.
Yo nunca había pensado escribir más historias. Las historias que están ahí fueron saliendo poco a poco. Tan rápidamente como podía soportarlo. Cada historia de esa tiene un placer, el placer de escribir, pero también un dolor. El dolor de ver que lo que escribía era todavía mucho más suave que la realidad en que estaba viviendo.
Et en fait, j'aurais jamais pensé écrire toutes ces histoires. En tout cas, au début, j'en avais pas l'envie. Elles sont sorties petit à petit, à mesure de ce que je pouvais supporter, en fait. Parce que chaque histoire, bien évidemment, représente un plaisir d'écrire, réel, mais représente aussi une douleur, la douleur notamment de voir que ce que je décris, c'est bien plus doux que la réalité de Cuba, qui est encore plus dure.
Demoré un año entre la primera y la segunda historia, un año entre la segunda y la tercera. Las cuarta, quinta, sexta y séptima salieron cada una en una semana.
Alors, il y a eu une année de délai entre l'écriture du premier texte et puis du deuxième texte, donc du deuxième chapitre. Ensuite, encore une année entre le deuxième et le troisième. Et les suivantes, ensuite, sont sorties d'un coup à une semaine d'intervalle.
Quand je me di cuenta tenía un libro, lo presenté a varias editoriales cubanas y lo miraron como el diablo mira al agua bendita.
Et lorsque j'ai réalisé que finalement, avec toutes ces histoires, bah, ça pouvait faire un livre... Je les ai donc rassemblés et j'ai tenté de les proposer à des éditeurs cubains. Et en fait, ils ont regardé ça comme le diable regarderait de l'eau bénite.
Han pasado 14 años y todavía el libro no está publicado en Cuba.
Et donc 14 années se sont écoulées et le livre n'était toujours pas publié à Cuba.
No parece que vaya a ser publicado en los próximos 14.
Je pense pas d'ailleurs qu'il soit question de le publier dans les 14 années à venir.
Pero yo espero que algún día se publique y los hijos de los cubanos de mi generación puedan saber cómo fue esa etapa, porque no quedaron documentos oficiales de lo que fueron los 90 en Cuba. Quizás mi libro les ayude de una manera metafórica a comprender lo que pasaron sus padres.
J'espère qu'un jour il soit publié dans le futur, parce que peut-être que il va pouvoir aider les enfants de ma génération à moi à comprendre ce qui s'est passé à Cuba dans les années 90, parce que, bien évidemment, aucune trace officielle n'a été conservée de cette période-là dans les archives.
Yo, releyendo el libro, pensaba que un libro escrito en esa circunstancia era un libro amargo, un libro doloroso, pero me doy cuenta que no es solo eso. También es un libro lleno de esperanza. O sea, esto es temporal, esto pasará.
J'ai relu le livre bien plus tard, et alors que je pensais par rapport à la période où je l'ai écrit et à ce que j'ai ressenti, je pensais qu'il serait plein de douleur, de haine, d'angoisse. Je me suis rendu compte avec le recul qu'il était aussi plein d'espoir, parce que finalement il veut dire que ben voilà, ça c'est une période, ça s'est passé à une époque, mais ça peut évoluer, ça peut changer.
Un petit extrait justement. Depuis combien de temps n'avait-il pas posé les yeux sur un autre visage humain, des mois, depuis qu'Andrea sur Colossa, et elle n'était pas totalement humaine mais métissée de centaurien. Même son propre reflet commençait à lui sembler étrange dans le miroir. C'était logique après avoir vu dans tous les coins de la galaxie tant de faces poilues, écailleuses, emplumées ou simplement indescriptibles. « Tu ne voulais pas voir d'autre monde, mon gars ?» ironisa-t-il. Pardon. « Maintenant, il faut boire la coupe jusqu'à la lie. Le malheur, c'est que je ne pourrai jamais raconter ça à personne. Et pourtant, j'ai vu tant de choses. » La tournée avec toi, grande brute, l'avait mis en contact avec des êtres et des endroits dont il n'avait jamais entendu parler sur Terre. Des êtres merveilleux et terribles. Pour connaître de telles créatures, n'importe quel sociologue ou biologiste terrien aurait donné 10 années de sa vie. Il avait vu les morlaques de Bételgeuse avec leurs pieds phosphorescents, les oiseaux bicéphales d'Arcturus, les marsupiaux d'Algol qui pouvaient se téléporter et des centaines d'autres animaux. Le cosmos était beaucoup plus vaste qu'on ne le pensait sur Terre et dissimulait bien plus d'espèces qu'on l'imaginait. Il ne parlerait jamais de ces êtres. Les lois de la galaxie contrôlaient très strictement le flux d'informations scientifiques et techniques auxquelles pouvaient avoir accès les espèces attardées, comme l'Homo sapiens. Dès la signature de son contrat, Moïse savait qu'à la veille de son retour sur Terre, sa mémoire serait bloquée, pour préserver l'anonymat des espèces qui ne souhaitaient pas être connues des êtres humains, pour que nul ne puisse raconter ses expériences, une précaution élémentaire afin d'éviter que des savoirs et des technologies dont l'utilisation rationnelle n'était pas encore à leur portée ne parviennent à la connaissance des terriens. L'important, c'est ce que j'ai vécu et ce dont je me souviens, même si je ne peux pas le raconter, murmura-t-il. Tous ces extraterrestres étranges de toute la galaxie, c'est la façon dont les Cubains, comme vous le disiez, ont regardé arriver ces Occidentaux avec ce niveau de vie, cette façon de penser si différente. Josh ?
Justamente, para nosotros, los europeos, los norteamericanos, los japoneses, ese turismo que llegaba eran gente rara, eran gente que hacían cosas que los cubanos nunca hubieran hecho, que no tenían costumbres que eran, a nosotros nos parecían indispensables para sobrevivir en el trópico.
Alors, effectivement, oui, on peut dire ça. Pour les Cubains, quand ils ont vu arriver comme ça tous ces étrangers de nationalités différentes, avec des visages différents, des habitudes différentes, ça nous est apparu complètement étrange parce que ils faisaient des choses, ils se comportaient d'une manière qui paraissait, il y avait des choses dont nous, sous les tropiques, on n'avait pas besoin, on les voyait faire ça et c'était vraiment très très étrange.
Un amigo, yo no lo pensé de esta manera, pero hay un amigo que hizo un estudio y hizo una correspondencia entre cada una de las razas extraterrestres y una nacionalidad.
En fait, même moi je l'ai pas écrit comme ça, hein, mais j'ai un ami à Cuba qui a en fait fait une étude de mon travail et qui donc a fait une analogie entre chacune des races qui est présentée dans Planet Alloué et une nationalité d'un pays.
No voy a decirles quién corresponde a quién. Supongo que leyendo el libro, los que lo quieran leer, lo descubrirán.
Alors, je ne veux pas dire qui est assimilé à qui, mais je suppose qu'en lisant le livre, on peut assez facilement s'en faire une idée.
Diré que algunas cosas de estos visitantes nos llamaban mucho la atención.
Et en fait, c'est parce que y a les choses que certaines choses que faisaient ces différentes nationalités, ça attirait notre attention.
Todos los norteamericanos, la mayoría de los europeos eran muy grandes, eran muy anchos, habían comido mucha proteína desde muy pequeños.
Alors par exemple, les Américains du Nord et puis certains Européens, par exemple, pour nous Cubains, étaient très grands, étaient très baraqués. Alors bon, ça s'explique parce qu'ils avaient mangé beaucoup de protéines depuis l'enfance.
A nosotros nos parecían que algunos estaban como blindados, porque estaban blindados con su tarjeta de crédito, con sus cheques de viajero, con un dinero que los respaldaba, que los protegía de la realidad.
Et alors pour nous, c'était comme s'ils étaient blindés. Ils étaient blindés grâce à leur carte de crédit, leur chèque voyage. Et en fait, tout cet argent qui les entourait comme une carapace et qui les isolait du monde qui les entourait.
Algunos tenían un olor característico. El olor de una persona que va al trópico, no se baña todos los días y no usa desodorante porque viene de un país frío donde no es necesario.
Par exemple, il y en avait d'autres dont on percevait l'odeur, et donc c'était leur odeur qui était caractéristique de leur nationalité, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'être sous les tropiques, ils venaient de pays froids, donc dans un pays tropical, ils ne se baignaient pas nécessairement tous les jours, ils ne mettaient pas de déodorant, et donc leur odeur corporelle était forte.
Quand ils caminaban por la ciudad, iban siempre por el lado donde había sol, algo que todo habitante del trópico evita.
Et ben, quand ils marchaient en ville, ils se mettaient toujours sur le côté du trottoir, ensoleillé, pour bronzer probablement, ce que tout bon cubain qui se respecte ne fait jamais, il marche à l'ombre.
Cuando bailaban, nosotros los mirábamos y decían, realmente ellos creen que eso es bailar.
Et quand ils venaient pour danser, les Cubains les regardaient et disaient, non mais franchement, tu crois vraiment que ça c'est danser?
Históricamente en la ciencia ficción los extraterrestres siempre han sido el otro, el diferente, el extraño, el que aterra. Para nosotros, todos estos europeos y norteamericanos, japoneses, eran el extraño, el que aterra, y nos sentíamos invadidos.
Et dans la science ficción, l'extraterrestre, c'est toujours celui qui vient d'ailleurs et qui effraie, qui impressionne, qui dérange. Pour nous, les Cubains, tous ces étrangers qui arrivaient, c'était un peu pareil. Ils nous effrayaient et quelque part, on se sentait envahis.
Un amigo que fue de los primeros en leer todo el libro me dijo muy contento: lo mejor del libro es que lo cierro y sé que la pesadilla terminó. Lo peor es que cuando lo cierro miro alrededor y me doy cuenta que no ha terminado.
Un de mes amis qui était un des premiers à lire le livre complet m'a dit, alors là il y a une bonne chose, il y a un truc bien, c'est que quand tu as fini le livre, tu as fini la dernière page, tu le refermes et tu dis, ah ça y est, le cauchemar est terminé. Malheureusement après tu lèves les yeux, tu regardes autour et tu dis, ah non mince, le cauchemar est continu.
Autre petit extrait, on a vu dans le précédent dans quel cadre on était. Et là, ce passage, les terriens s'interrogent, pourquoi peut-être ne pas aller ailleurs si l'herbe est plus verte. L'idée du voyage. Le voyage, c'est l'exode. Fuir le règne de Pharaon à la recherche de la terre promise. Sur la terre promise, il y a des grappes de raisins si grosses qu'il faut deux hommes pour les porter. Il y a du travail et des opportunités pour nous. Il y coule des rivières de lait et de miel, et tout homme entreprenant peut réaliser ses rêves de richesse. La terre promise se trouve ailleurs que sur terre. Les humains ne sont pas exactement le peuple élu, mais la terre promise appartient aux Philistins, ceux qui détiennent le pouvoir dans l'ombre de Pharaon. Ce sont les Xénoïdes qui manipulent les pantins de l'agence touristique planétaire et méprisent les terriens. Or, ces Philistins-là ne veulent pas que les humains jouissent de leur bien-être. Ils ont peur que l'espèce inférieure vienne souiller leur monde. Les Xénoïdes sont puissants, en armes et en richesses. L'épée ou la bourse ne peuvent pas les vaincre, eux et leurs marionnettes de l'agence touristique planétaire. Il reste donc l'astuce et l'intelligence pour entrer secrètement sur la terre promise. Tous les Philistins n'ont pas les mêmes opinions et certains sont à la recherche de bras pour travailler dans leurs champs. En effet, il existe certains compatissants qui reçoivent les humains en fuite et en échange d'un travail d'esclave dans leurs usines, les cachent durant 3 ans et 3 jours. Après ce délai, si l'humain peut démontrer qu'il est resté tout ce temps chez les Philistins, il a une chance de devenir citoyen de la terre promise, un citoyen de seconde classe, toutefois. Mais mieux vaut souffrir sous le joug philistin que sous celui de Pharaon. Mieux vaut la terre promise que sa colonie. Dès lors, l'astuce et l'intelligence ne poussent qu'à une seule chose, partir. Le voyage, c'est la fuite. Là aussi, la métaphore est évidente. Et contrairement à vos personnages, Yosh, vous avez choisi non pas de fuir, non pas de rester, mais de voyager, par l'écriture, mais aussi en venant nous voir.
Yo creo que es muy fácil cuando uno critica un lugar decir no es perfecto, por lo tanto me voy a buscar otro lugar que me guste más.
Je crois que c'est facile de dire qu'on n'aime pas un lieu et de se dire bon bah j'aime pas cet endroit, donc ben je m'en vais ailleurs.
Yo soy consciente de que he escrito cosas muy duras para los cubanos en ese libro, pero quiero tener un compromiso con lo que he escrito.
J'ai conscience que j'écris des choses très très dures dans mes livres pour les Cubains, mais en même temps j'ai envie de faire des compromis.
Mi compromiso es tratar de mejorar mi país.
Et le compromis que je propose, moi, c'est d'essayer d'améliorer mon pays.
Algunos me dicen, pero tú deberías tomar un fusil y irte a las montañas y hacer la revolución.
Et alors certains me disent, bah écoute, bah, voilà, prends un fusil, cache-toi dans les montagnes et fais la révolution.
Yo digo, puede ser, pero incluso si triunfara, nadie garantiza que yo lo hiciera mejor que los que se fueron a las montañas y triunfaron en 1959, que Fidel, que el Che.
Et en fait, moi je réponds, bah oui, d'accord, mais qu'est-ce qui garantit que je ferai mieux que ceux qui sont là actuellement, qui eux, en 59, étaient dans la montagne avec leur fusil, Fidel Castro, le Che?
Yo creo que la verdadera revolución no se hace cambiando a un presidente por otro. Lo que hay que cambiar es la mente de los que pudieran elegir a un presidente o al otro. Para eso se hacen los libros.
Et je pense que le changement, c'est pas mettre un président à la place d'un autre. Le changement, c'est agir sur les mentalités, c'est faire changer, faire évoluer les mentalités des gens qui, eux, choisissent de mettre tel ou tel président. Et ça, je pense que c'est le rôle des livres.
Por eso me quedo en Cuba y sigo escribiendo, porque no sería honesto conmigo mismo hacerlo desde fuera. Sería como hablar de domar leones sin haber estado nunca cerca de un león.
C'est pourquoi j'ai fait le choix de rester à Cuba et de pouvoir agir de l'intérieur. Parce que sinon, si j'allais à l'extérieur et que je parlais de Cuba en étant loin, ce serait comme quelqu'un qui voudrait faire tout un traité sur les lions, etc., sans en avoir jamais vu aucun.
Además, también hay un factor personal. A pesar de que no es perfecto y que veo todos sus defectos, para mí sigue siendo Cuba el mejor país del mundo, para mí, no sé, para los demás.
Et il y a un autre facteur aussi, c'est que bien qu'il y ait énormément de défauts que je souligne et que je critique, je suis attachée à mon pays et pour moi, Cuba, ça reste le meilleur pays du monde pour moi.
He vivido mucho tiempo en Europa, he viajado bastante por Europa, por América, y me he dado cuenta que para mí el viaje no tiene sentido sin un regreso a mi país para poder contarlo a los amigos.
Et bon bah moi j'ai bougé pas mal, j'ai vécu un certain temps en Europe, j'ai voyagé pas mal en Europe, j'ai aussi voyagé aux États-Unis. Et en fait, pour moi, le voyage n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas de retour, et notamment un retour pour pouvoir raconter tout ça à mes amis.
Para mí la emigración es un viaje incompleto, porque es un viaje en un solo sentido. La persona deja atrás un mundo y cree que ese mundo lo va a estar esperando si algún día regresa.
Pour moi, l'émigration, c'est une fausse solution parce que c'est un voyage dans un seul sens et la personne qui émigre, donc qui quitte son pays, le quitte en se disant que peut-être ce pays va attendre son hypothétique retour un jour.
Pero una emigración no es solo un movimiento en el espacio, también es un viaje en el tiempo. Cuando un emigrante regresa a su país, nunca es el mismo país que dejó y él tampoco es el mismo.
Mais l'immigration, c'est aussi un voyage dans le temps. Parce que la personne qui a émigré, qui est partie vivre à l'étranger, si un jour elle retourne dans son pays d'origine, c'est plus le même pays qu'elle va retrouver, parce que lui, il a changé entre-temps, et cette personne-là, elle aussi, elle a changé.
El mayor periodo que he permanecido fuera de Cuba ha sido 11 meses. Cuando regresé en junio del 2002, después de 11 meses sin estar en mi país, sentí un miedo terrible. Había cosas en mi país que no entendía y cosas que no sabía. Y dije, nunca volveré a irme tanto tiempo.
Alors, la durée la plus longue que j'ai passée en dehors de Cuba, ça a été quasiment un an. Et lorsque je suis rentrée à Cuba en juin 2002, je me suis rendu compte d'un coup qu'il s'était passé des choses pendant que j'étais pas là. Il y a des choses que je savais pas. Il y a des choses qui avaient changé. Et ça m'a fait tout drôle. Et je me suis dit, c'est la dernière fois que je quitte Cuba aussi longtemps.
No critico a los escritores que se van a otro país. Hay gente que puede llevar sus raíces consigo mismo como en una maceta.
Alors, moi, je ne critique absolument pas les écrivains qui sont partis s'installer à l'étranger et qui ont, quelque part, emporté leurs racines avec eux comme dans un pot de fleurs.
No es su defecto, es nuestro defecto. Algunos no podemos. Si me alejo de Cuba, mi escritura empieza a volverse extraña.
Tout le monde ne peut pas faire ça. On est un certain nombre, et moi je suis de ceux-là, à ne pas pouvoir m'éloigner de Cuba. Si je pars de Cuba trop longtemps, mon écriture, j'ai l'impression qu'elle se délite.
On pourrait continuer à parler de Planète Allouée longtemps comme ça, mais on va très rapidement donner un petit éclairage sur un autre bouquin, et là aussi, pour aller un peu plus vite, je vais choisir de lire un extrait de la quatrième de couverture, un, parce qu'elle est bien faite, et deux, parce que la personne qui l'a faite, en fait, c'est une préface. Voilà, je rappellerai juste à Sylvie Miller que la prochaine fois, à la fin de la préface, il faut qu'elle pense à mettre son nom. Même si j'avais deviné reconnu son style.
J'ai pas voulu le faire, justement.
Deux voisins bien différents. Un grand pays, un petit pays. L'un est démocratique et développé, l'autre est gouverné par un dictateur affable. Trois événements incongrus viennent bousculer la relation déjà tendue de ces deux pays, de ces deux voisins ennemis. Une curieuse interférence perturbant les émissions télévisées, un rayon étrange aux effets inattendus et des cheminées s'élevant rageusement vers les cieux qui fera la plus haute. Le propos jamais ouvertement politique dessine un portrait au vitriol de la société cubaine. C'est truculent, hilarant, divertissant. Entre ce petit pays et son grand voisin, tout est prétexte à des interférences. Petit extrait. Le gouvernement, bien sûr, nia immédiatement de façon catégorique détenir ou avoir jamais détenu des prisonniers de quelque origine extraterrestre que ce soit. Et si, miraculeusement, aucune vague de panique nationale ne s'était encore déclenchée, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Les inexorables rouages de la théorie de la conspiration se mirent en marche. Le caractère immédiat et violemment catégorique de la négation persuada plus de 50% de la population du grand pays que son gouvernement mentait. Après tout, ils n'avaient pas nié l'existence des extraterrestres, n'est-ce pas? Ou bien, ils étaient de mèche avec eux et leur permettaient d'expérimenter sur le génome humain en échange de concessions technologiques. Ou il y avait des extraterrestres déguisés à des postes clés de gouvernement ou de l'armée. Ou les aliens exigeaient un tribut de chair et de sang pour ne pas détruire la Terre ou quelque chose d'inimaginable, encore pire. La réaction des pouvoirs publics n'aida pas à rétablir le calme. L'armée déclara rapidement une alerte nationale de troisième degré et le ministère de la Santé décida l'internement obligatoire dans des pavillons spéciaux de tous ceux qui étaient affectés par le nouveau syndrome. De nombreuses familles, craignant de ne plus pouvoir voir leurs êtres chers, choisirent de ne pas révéler leur état. Et tandis qu'elles regardaient désespérément leurs parents, enfants, conjoints ou grands-parents se transformer en plaquettes de sustentation, en nez de vaisseau ou en d'autres éléments plus difficiles à identifier, elles se consolaient en pensant qu'au moins ils avaient passé leurs derniers instants parmi les leurs, entourés d'amour. Aussitôt, les écologistes exprimèrent publiquement leur joie devant les événements. Convertir les humains en pièces vertes, des hommes se transformant en plantes, quelqu'un peu rare, quoiqu'un peu rare. C'était le châtiment que la Gaïa écorchée réservait à ses enfants inconscients. La patience de notre mère Terre était à bout, ainsi que sa passivité, et elle montrait à présent qu'elle disposait de pouvoirs insoupçonnés. Les religieux et les fanatiques du grand pays réagirent également avec violence. Un prédicateur de l'église des Saints de l'avant-dernier jour déclara que le fléau des pièces était une évidence indiscutable de l'existence matérielle du démon et de la proximité de l'Apocalypse, et appela ses fidèles à prier pour être prêts à recevoir le signe que le malin était sur le point d'affronter l'humanité. Et bien sûr, seuls seraient sauvés les élus au cœur pur, simples d'esprit, et ceux qui n'auraient pas oublié de payer religieusement la dîme mensuelle aux pasteurs de leur congrégation. La secte Moon, éternelle rivale des saints de l'avant-dernier jour, envoya plusieurs de ses adeptes exorciser ceux affectés par le fléau des pièces, sans résultat. Le pape, à Rome, attendit le plus longtemps possible avant de faire une déclaration, et lorsqu'il n'eut plus d'autre moyen que de se prononcer, il leva les mains tel Ponce Pilate, déclarant « Il faut rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, et à César ce qui appartient à César. » Et bien sûr, il ajouta « Les voix du Seigneur sont impénétrables. » Puis il demanda à tous les chrétiens catholiques de prier pour ceux qui souffraient. Mais le jour suivant, la Banque du Vatican lança une émission exceptionnelle de bons du Trésor destinée à financer un budget de plusieurs millions. Bien, petit extrait caustique, etc., qui montre peut-être, et la question que je poserai à Yosh, qui montre que cette vision caustique, elle n'est pas binaire, elle n'est pas réservée à Cuba, elle n'est pas réservée aux grands pays, chacun aura reconnu les États-Unis évidemment, et elle n'est pas réservée non plus dans l'histoire aux différents parties prenantes. Toutes les églises en prennent pour leur grade. On voit que le regard critique de Yosh, c'est plus sur les différentes sociétés que, en fait, une adhésion à un système. Et la question que je voudrais lui poser, c'est justement son regard sur les États-Unis. J'ai appris, il me rectifiera si je me trompe, que son roman, Planète allouée, serait peut-être bientôt traduit aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai, Yosh ? Et alors là, ma deuxième information, encore plus incroyable, Planète allouée serait donc publiée aux États-Unis, ce qui serait une excellente chose, d'autant plus que si le roman critique Cuba, il critique aussi les États-Unis. Mais curieusement, votre roman ne semble pas avoir plu à quelqu'un aux États-Unis, peut-être la NSA, on en parle beaucoup en ce moment, et il paraîtrait qu'on vous a refusé un visa d'entrée aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai, Yosh ?
El año pasado yo estaba invitado a una conferencia en Washington, D.C., la reunión de LASA, Latin American Studies Association.
Donc, l'année dernière, j'étais invité à Washington à une conférence de l'Association des pays d'Amérique latine, l'Association de recherche sur les pays d'Amérique latine.
Ya tenía el pasaje. Yo no necesitaba visa, tengo un pasaporte español, necesitaba solo la autorización. 10 días antes de volar me escribieron, el Departamento de Estado no está interesado en su presencia en los Estados Unidos, a usted se le considera un presunto inmigrante y un posible terrorista.
Et alors en fait, j'avais déjà acheté le billet, je pouvais sortir de Cuba puisque maintenant je possède un passeport européen. Et donc il me manquait le visa d'entrée des États-Unis. Et en fait, 10 jours avant mon voyage, j'ai reçu une lettre donc des Américains expliquant qu'ils n'étaient pas intéressés par ma présence sur le sol américain pour 2 motifs. D'abord parce qu'ils avaient la crainte d'une immigration, hein, de choisir ce prétexte pour immigrer, une immigration clandestine, et deuxième raison, soupçon de terrorisme.
Confieso que la parte de immigrante fue la que no entendí.
Et moi, en fait, la partie que j'ai pas compris, c'est le truc sur l'immigration.
On comprend mieux maintenant pourquoi, dans un roman de science-fiction, on peut, quand on est cubain, à la fois critiquer ce qui ne va pas dans son pays tout en l'aimant, et à la fois critiquer les États-Unis, qui pourtant, paraît-il, est une grande démocratie accueillante. Donc la science-fiction, finalement, nous montre, à travers cette petite histoire, que le monde n'est pas simple, qu'il n'est pas blanc et noir, qui sont les deux seules couleurs que pratiquent les imbéciles, comme disait l'autre, mais que le gris, malheureusement ou heureusement, peut-être pour la complexité humaine, est aussi ce qu'on voit le plus dans notre monde. Ce qu'on voit aussi le plus dans les romans de Yosh, il y a de l'humour, il y a de la science-fiction, il y a de la passion, il y a des personnages, Monsieur Pérez, on pourrait en parler longtemps, cet homme qui répare les télévisions, du moins qui essaye, qui est un modèle de Cubain débrouillard.
Avec la méthode cinétique.
Avec la méthode cinétique. Faire marcher la télévision.
La méthode cinétique, en fait, on prend un marteau et on tape sur ce qui ne marche pas.
Il y a donc beaucoup d'humour aussi. Il y a de la vraie science-fiction dans Planète allouée et Interférence. Vous avez toujours cette belle couverture et ce beau livre. Si vous êtes un tout petit peu en fin d'achat, un peu fauché, vous avez Interférence et vous avez aussi Planète allouée en collection de poche. Donc en un mot, pour le prix d'un livre grand format, vous pouvez partir avec les deux romans de Yoche. C'est un merveilleux raconteur d'histoire, c'est un vrai écrivain de science-fiction, c'est une belle SF cubaine, et puis c'est aussi un homme libre, un homme qui est capable d'être critique sur l'ensemble des systèmes. On dira peut-être pas qu'on soutiendra le régime cubain. On critiquera aussi nos amis américains quand ils n'acceptent pas de faire entrer un écrivain. On l'a accueilli à Pinal depuis plus d'une dizaine d'années. Pour le moment, tout va bien. Alors, nous, on n'a pas peur de Yoche. On lui dit bienvenue. On le reverra à nouveau. Et en tout cas, on dit Yoche, oui, Cuba, si.